Petites histoires des sciences. La découverte du proton. En 1915, s'effondre un jeune physicien de 28 ans abattu d'une balle dans la tête par un sniper en Turquie. Rutherford écrit à la revue Science. Henry Moseley fut un des plus brillants jeunes qui m'ait été permis de côtoyer, et sa perte est une perte immense pour la science. Durant une carrière très courte, il réalise une œuvre scientifique d'une importance telle qu'il aurait mérité un prix Nobel. Comme on va le voir, Henry Moseley va justifier le tableau périodique de Mendeleïev, mettre en lumière les travaux de Rutherford et Bohr sur la structure de l'atome. Sa grande découverte, les protons, aujourd'hui plus connu sous le nom de proton. Si le nom de Rutherford, le découvreur du noyau de l'atome, est largement répandu dans les livres de physique, celui de Moseley l'est beaucoup moins. Niels Bohr, qui travaillait dans le même laboratoire que Rutherford à Manchester, a bien connu Henry Moseley, et il dira en 1962. Le travail de Rutherford, sur le noyau de l'atome, n'était pas pris au sérieux en fait. On peut difficilement le comprendre aujourd'hui, mais vraiment, personne n'y prêtait attention du tout. On n'en parlait nulle part. Le grand changement, c'est Moseley qui l'a amené. L'anglais Henry Moseley est né en 1887. Son père est Henry Notitch Moseley, un anatomiste et physiologiste, professeur à Oxford, apprécié de ses élèves, et proche de Charles Darwin. Henry et ses deux sœurs aînées grandissent dans un confort et une atmosphère culturelle typique de la bourgeoisie anglaise de cette fin de siècle, entourée de livres et des richesses rapportées de l'étranger. Cependant, son père est victime d'un AVC dont il ne se remettra pas. Il meurt 3 ans plus tard, 2 semaines avant le 4e anniversaire d'Henri. Sa sœur aînée, Betty, décède elle aussi en 1890. À la mort de Betty, la famille va à Oxford, d'où est originaire Annabelle, la mère de Henry. Henry est proche de son autre sœur, Marjorie, avec qui il entretiendra une abondante correspondance jusqu'à sa mort. Ensemble, ils s'intéressent grandement à la faune et la flore qui les environnent. Henry ira jusqu'à créer son propre cabinet de curiosité. Henry, seul garçon de la maison, va prendre une place considérable dans le foyer, ses traits physiques et ses aptitudes intellectuelles rappelant celles du père. Réputé pour être un enfant doué mais timide, le jeune Henry n'a aucune difficulté pour se faire remarquer à l'école Summerfields, puis au collège d'Eton. Au collège d'Eton, il n'apprécie pas son professeur de physique. Il écrit à sa mère « Je n'ai aucun respect pour cet homme, car il ne peut pas ou ne veut pas expliquer quoi que ce soit, et nous renvoie sans arrêt vers les livres. » Heureusement, les cours de chimie, et surtout les expériences, sont assurés par Thomas Porter, un des premiers à reproduire en Angleterre les expériences sur les rayons X de Röntgen. Nous y reviendrons. Henry est aussi fasciné par la minéralogie et les études quantitatives qu'il peut en faire, comme déterminer le degré de pureté ou la masse moléculaire de ses cristaux. En octobre 1906, Henry entre au Trinity College à Oxford. À son entrée, Moseley écrit à sa mère « Rien ne me surprend plus que l'uniformité des idées et des attitudes qu'on rencontre ici. » Cependant, le jeune Henry ne se distingue pas pour des idées politiques autres que celles de sa classe sociale, c'est-à-dire conservateur, patriotique, voire nationaliste. Henry ne se fait pas particulièrement d'amis au Trinity College. Sa timidité et ses certitudes intellectuelles en font quelqu'un d'assez solitaire. Il rejoint cependant le club scientifique Alembic and the Junior Scientific, qui organise des débats et des conférences de façon hebdomadaire. Il intégrera le bureau de cette association universitaire l'année suivante et en sera président en 1910. Il se fait particulièrement remarquer pour ses discours autour de l'électron et des spectres, nous y reviendrons aussi. Il traite aussi de chimie, l'organisation des structures infiniment petites l'attire tout particulièrement. Durant ces sessions, Henry Jervis, un des rares amis de Mosley, présente en 1908 un travail intitulé « L'évolution des éléments », dans lequel il cherche à expliquer le poids des atomes sur les bases de l'électromagnétisme. À partir des théories de l'époque, Jervis pressent qu'il existe un lien entre un nombre n, qui correspond à la place qu'occupe un élément dans le tableau périodique, et le poids atomique des éléments chimiques. Ces débats autour de l'analyse spectrale, de la structure de la matière, du rayonnement, vont grandement influencer Henry dans ses travaux à venir.
Après avoir fait des études supérieures à Oxford, donc, Mosley part enseigner la physique à l'université de Manchester entre septembre 1910 et 1913 aux côtés de Ernst Rutherford, alors fer de lance de la physique britannique. Quand Mosley arrive, cela fait 3 ans que Rutherford enseigne à Manchester. Le nombre d'étudiants-chercheurs croît de façon exponentielle dans le laboratoire du Néo-Zélandais. Les étudiants-chercheurs qui côtoient le laboratoire de Rutherford n'ont pas des connaissances encyclopédiques en physique et la plupart travaillent sur des sujets à la mode comme la radioactivité. Mosley doit s'acquitter d'une charge d'enseignement, ce qui l'ennuie au plus haut point. Il trouve non seulement la plupart de ses étudiants, je cite, « stupides », mais il est incommodé par le fait d'enseigner à des gens de cultures différentes. N'oublions pas que nous sommes à l'aube de la Première Guerre mondiale et que le nationalisme, voire le racisme, sont monnaie courante. Mosley ne se distingue pas pour sa tolérance, ni son temps alloué aux étudiants. En tant que professeur, il n'arrive jamais en avance, mais part toujours à la fin de l'heure, sans demander son reste. Seule la recherche l'intéresse. Rutherford ne l'invite à commencer son travail expérimental vraiment qu'à partir de décembre 1910, ce qui a le don d'irriter le jeune Mosley. En attendant, début novembre, il se voit confier un travail sur la radioactivité du radium où il doit réduire les incertitudes d'un travail fait par un de ses prédécesseurs. Là où la plupart des étudiants de Rutherford mettent en moyenne 4 à 6 mois pour résoudre les tâches proposées, Mosley s'en acquitte en 4 semaines. Vient le temps des expérimentations, mais les contretemps matériels et les vacances de fin d'année viennent retarder le travail de Mosley, ce qui l'agace encore plus. Le premier travail intéressant sera sur les rayons X. Mosley a demandé à son ami d'enfance Charles Darwin, petit-fils de Charles Darwin, de se joindre à lui dans ce travail. Rutherford a cependant objecté que personne à Manchester n'était plus qualifié que lui-même sur les techniques à utiliser dans ce domaine de recherche. Au bout d'un moment, il consent à laisser Mosley et Darwin essayer leurs idées. Ainsi a commencé le travail révolutionnaire de Mosley. premier article publié sera sur la réflexion des rayons X. Il détecte les rayons X émis par divers métaux sous le choc d'électrons suffisamment accéléré. Dans son second papier, sans Charles Darwin cette fois, il ne s'intéresse non plus à la diffraction des rayons X, mais au spectre des rayons X obtenus en irradiant des métaux. Mosley va alors montrer que la fréquence du rayon X émis varie linéairement avec le carré du numéro atomique d'ordre Z de l'élément dans la classification de Mendeleïev. Nous allons maintenant revenir sur cette fameuse classification, sur les rayons X, sur la diffraction, sur ces fameux spectres, et nous allons voir en quoi le travail de Mosley a été d'une importance si capitale pour le développement de la physique. Dans toute salle de chimie se trouve le fameux tableau périodique des éléments qu'on attribue au chimiste russe Dmitri Mendeleïev. Petit retour en arrière pour voir comment les éléments chimiques connus ont été classés. En 1815, William Prout avait déjà imaginé que la masse atomique des éléments chimiques était un multiple entier de celle de l'atome d'hydrogène. Il fut pris comme référence 1 g le poids atomique de l'hydrogène, et on trouva 16 g pour l'oxygène, 12 g pour le carbone, etc. Cependant, on ne pouvait pas expliquer par cette théorie la valeur du poids atomique du chlore qui est de 35,5 g. D'autres chimistes ont tenté de classer les éléments connus à l'époque. On peut citer Lothar Meyer en Allemagne, mais aussi Chante-Courtois en France, et donc Mendeleïev en Russie. Le critère commun pour les classer était de les ranger par poids atomique croissant sur une même ligne. De plus, les éléments chimiques ayant les mêmes propriétés chimiques furent positionnés dans une même colonne par le russe. L'avantage du classement de Mendeleïev était son caractère prédictif. En effet, il laissa des cases vides, prévoyant la découverte d'éléments alors inconnus à l'époque. Il avait ainsi pu prévoir les propriétés physico-chimiques de ces éléments inconnus et qui seront découverts quelques années plus tard, comme le gallium en France, le germanium en Allemagne ou le scandium en Scandinavie. Sentez l'odeur du nationalisme dans les noms des éléments. Mais la classification périodique était alors un outil empirique, issu de l'expérience, et il manquait un cadre théorique solide pour justifier la place des éléments dans le tableau. C'est ce que va léguer Mosley après un travail sur la diffraction des rayons X. Les rayons X furent découverts en 1896 par l'allemand Wilhelm Röntgen. Que sont les rayons X ? Ce sont des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent se propager sans avoir besoin d'un support matériel. L'onde électromagnétique qui nous est la plus familière est la lumière, dont notre œil peut capter le rayonnement. Mais notre œil, comme tout capteur, a des limites, et il ne peut pas voir les ondes qui sont au-delà de ces limites, comme les infrarouges et les ultraviolets. Une onde électromagnétique est caractérisée par sa longueur d'onde, qui, comme toutes les longueurs, s'exprime en mètres. Pour les longueurs d'onde du visible, par exemple, les longueurs de ces ondes sont comprises entre 400 et 700 nanomètres. De l'ordre de 10⁻⁷ mètres, c'est très 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 petit. Pour les rayons X, la longueur d'onde est encore plus petite, entre 0,001 nanomètre et 10 nanomètres. Le phénomène de la diffraction avec la lumière visible était connu depuis longtemps et les premiers travaux scientifiques de Francisco Grimaldi au XVIIe siècle. On avait remarqué depuis longtemps que la lumière se propageait en ligne droite. Mais, dans certaines conditions, comme lorsque l'on pose un obstacle ou une ouverture sur le chemin de la lumière, celle-ci ne répond plus aux lois de l'optique géométrique. Un ensemble de tâches ou une figure apparaît alors sur un écran posé derrière l'obstacle. Une nature ondulatoire de la lumière fut proposée par Christian Huygens au XVIIe siècle et le cadre théorique de l'optique ondulatoire fut posé dans la première moitié du XIXe siècle suite aux travaux d'Augustin Fresnel. On utilisa ce phénomène pour identifier les structures cristallines. La découverte d'un nouveau type d'onde électromagnétique aux longueurs d'onde plus courtes et donc aux fréquences plus grandes que celles de la lumière visible va permettre d'explorer un peu plus loin la structure de la matière. C'est ce que vont réaliser expérimentalement deux physiciens allemands, Friedrich et Knipping, en juillet 1912. En irradiant un cristal de zinc, les expérimentateurs ont obtenu une tâche de diffraction qui avait été théorisée par le physicien von Laue. Il aura le prix Nobel de physique 1914. La famille Bragg, père et fils, qui sont anglais, vont développer très vite la théorie de la diffraction par rayon X. Ils partageront le prix Nobel en 1915. La spectroscopie est l'analyse des spectres obtenus par des systèmes dispersifs comme le prisme ou un réseau. Si Isaac Newton obtint le spectre de la lumière blanche avec un prisme et en déduisit que la lumière blanche était composée de toutes les couleurs, ce n'est vraiment qu'au XIXe siècle, avec les réseaux et Fraunhofer, que la spectroscopie va prendre son essor. On identifie que dans le spectre visible, chaque élément chimique a sa propre signature spectrale. La découverte des rayons X va permettre d'étendre la spectroscopie à un domaine plus large des ondes électromagnétiques. La technique d'obtention des spectres est détaillée par un Français, Maurice de Broglie, frère de Louis de Broglie, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences à la séance du 17 novembre 1913. Dans la séance du 19 janvier 1914, le physicien français apporte des éléments pour voir les raies issues des rayons X. Ce que de Broglie a fait pour quelques éléments, Mosley va le faire avec tous les éléments qui lui tombent sous la main. Il modifie le dispositif original en remplaçant les chambres d'ionisation par des plaques photographiques. À ce point de l'histoire, il faut mentionner un personnage assez atypique. En 1913, un avocat et physicien amateur d'Amsterdam, Antonius van den Broek, proposa que toutes les propriétés optiques des éléments soient déterminées par son ordre dans le tableau périodique de Mendeleïev. Souvenez-vous, le tableau permettait de prévoir les propriétés physiques et chimiques des éléments, mais pas les propriétés optiques. La doctrine du numéro atomique de van den Broek différait évidemment du principe fondamental de Mendeleïev, selon lequel les propriétés chimiques d'un élément dépendent de son poids atomique. Mosley vérifie expérimentalement cette idée que chaque élément puisse être associé à un numéro, et que ce numéro soit lié aux propriétés optiques et donc électromagnétiques des éléments. Avant Mosley, on savait grâce aux travaux de Rutherford que l'atome avait un noyau chargé positivement et des électrons tournaient autour. Niels Bohr avait aussi établi que les électrons étaient sur des couches successives. Cependant, il n'avait pas été établi que le noyau contenait un nombre entier de charges positives. Ce que Mosley a démontré, c'est que ce nombre est une caractéristique propre qui permet de définir les atomes. On sait aujourd'hui que tous les atomes de carbone dans l'univers ont 6 charges positives, tous les atomes d'azote en ont 7, etc. C'est le numéro atomique. Ainsi, dans le tableau périodique, où on avait originellement classé les atomes par poids atomique croissant, Mosley démontre qu'il existe un critère bien plus fondamental pour justifier la place des atomes, leur nombre de charges positives dans le noyau, nombre qui sera appelé numéro atomique et noté Z. De plus, Mosley va prévoir l'existence de trois atomes alors inconnus à l'époque et qui seront découverts par la suite. Le technétium, numéro atomique 43, le prométhium, numéro atomique 61, et le rhénium, numéro atomique 75. Quel nom donner à ces porteurs de charge positive ? Rutherford proposera d'abord Prouton en hommage à William Prout. Finalement, ce mot deviendra proton en 1920. Cette contribution essentielle de Mosley à la physique sera malheureusement la seule. Engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale, malgré la tentative de Rutherford de l'en dissuader, il est envoyé aux Dardanelles, où il est tué lors de la bataille de Gallipoli. Pour le décryptage plus en profondeur de son travail, vous pouvez lire l'article qui lui est consacré sur le site Petites Histoires des Sciences, où vous retrouverez également toute la programmation musicale.